sur la devise qui est choisie pour l'Église. Cette année, notre devise a été choisie par le groupe des jeunes adultes et c'est notre sœur Raphaël Dunan qui nous a fait une très belle réalisation. Si vous voulez la procurer, vous pouvez le faire après le culte, auprès de Maryse Ventura. Le verset, la devise qui a été choisie pour notre Église cette année est la suivante. Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui et il agira. C'est le psaume 37, verset 5. Ce verset est connu davantage dans la traduction « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira ». C'est dans cette version, en tous les cas, que le texte nous a été proposé par les jeunes adultes, mais après réflexion au conseil, nous avons opté pour la traduction qui figure sur notre devise. Nous avons choisi de traduire plus littéralement. Je vous propose de lire les 9 premiers versets de psaume 37. Nous avons déjà lu la dernière partie de ce psaume. Je vous propose maintenant de lire la première partie, les versets, donc psaume 37, les versets 1 à 9. Le psaume 37, les versets 1 à 9. Ne te fâche pas contre les mauvais, ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Mets ta confiance dans le Seigneur et il agit bien. Demeure dans le pays et repais-toi de fidélité. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant le Seigneur. Attends-le, ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne te fâche pas, ce serait mal faire, car les mauvais seront retranchés et ceux qui espèrent dans le Seigneur posséderont le pays. Amen. Avant de nous arrêter sur les quelques enseignements que notre devise, nous pouvons tirer de notre devise, j'aimerais, dans un premier temps, j'aimerais d'abord attirer notre attention sur la beauté littéraire de ce psaume, sur la beauté de ce poème. Le psaume 37 fait partie en effet de tous ces psaumes qu'on appelle les psaumes alphabétiques, c'est-à-dire des psaumes dont les strophes ou les vers commencent par les lettres d'alphabet hébraïque. Et là, la première strophe commence par la première lettre et la dernière strophe du psaume 37 se termine par la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. En plus donc, de cette organisation alphabétique tout au long du psaume, on retrouve aussi une organisation interne pour chacune des parties développées dans ce psaume. Il y a 3 parties qui sont distinctement développées et on retrouve donc à l'intérieur aussi une organisation particulière. Nous avons dans les versets que nous venons de lire, 1 à 9, les recommandations adressées pour le juste. Et dans les versets 10 à 22 que nous n'avons pas lus, la finalité ou le sort des méchants. Et enfin, dans les versets 23 à 34, il y a le soutien du Seigneur qui est évoqué pour le juste. Et après ces 3 grandes parties, vient une conclusion où pour rappeler la finalité de juste et celle du méchant. Le juste nous dit à la fin du psaume « reçoit le salut du Seigneur, quant au méchant, il disparaîtra, il ne sera plus ». La dernière remarque que je pense intéressante de faire sur juste sur ce poème, la composition littéraire de ce poème, c'est que dans à l'intérieur de chacune de ces 3 parties, il y a aussi une autre organisation de ce texte. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu théologique le chiasme. Le chiasme, c'est une structure qui sert en fait à faire ressortir la pointe de ce que le psalmiste, de ce que le texte veut dire. Et dans, bien sûr, les 9 premiers versets que nous avons lus, ce qui ressort, c'est le verset 4, « Faire de l'Éternel ses délices ». Donc, en plus d'être un chef-d'œuvre littéraire, le psaume 37 aborde en fait une question, de la question de la vie, de la piété quotidienne. Il apporte une réponse à la question qui se pose souvent, que se posent souvent les croyants face à la réussite des méchants. Le croyant ne comprend pas pourquoi le méchant réussit dans ses entreprises, dans ce monde. Et le psalmiste invite justement les croyants à considérer l'ensemble du parcours humain et ne pas se limiter uniquement à des tranches particulières de la vie qui pourraient laisser entendre que le méchant a triomphé définitivement. Et dans ce cas, lorsqu'on considère l'ensemble du parcours de juste et de méchant, le constat est sans appel. Au verset 35 que nous avons lu et que je relis, « J'ai vu le méchant dans toute sa brutalité. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il n'était introuvable. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais ceux qui se révoltent sont détruits tous ensemble. L'avenir des méchants est retranché. » Nous donne la conclusion, le psalmiste dans sa conclusion. Donc c'est à la lumière de cette finalité que nous sommes invités à nous attendre au Seigneur et à nous confier en lui, à marcher selon sa volonté. Dans les 9 premiers versets que nous avons lus, David nous encourage à ne pas donner libre cours à notre irritation face justement à ces réussites des méchants dans le monde que nous vivons, dans le monde si complexe dans lequel nous vivons. Il nous exhorte à ne pas laisser notre colère conduire nos réactions face à de tels exploits, c'est le verset 1. Au contraire, il nous demande de ne pas nous indigner contre de tels hommes, de ne pas nous irriter face à de telles situations, sont les versets 7 à 9. Car le psalmiste sait que de toutes les manières, de toutes les façons, la colère est une mauvaise conseillère. David donne 2 raisons pour lesquelles le croyant doit agir de cette manière, de ne pas s'irriter, de ne pas laisser donner libre cours à sa colère face aux exploits des méchants. La première raison, c'est parce que les méchants sont fanés, nous dit au verset 2, vite que l'herbe et se flétrissent comme de le gazon vert. La vie humaine, aussi longue, pourrait apparaître n'est qu'une étape qui passe vite, même parfois très vite. Et c'est ce qu'il dira aussi le psalmiste dans le psaume 103, les versets 15 à 16, qui rappelle la fragilité et la limite de la vie humaine. La deuxième raison pour laquelle le croyant ne doit pas être jaloux, né en colère face à la réussite des méchants, c'est parce que le Seigneur imposera sa justice comme la lumière et son droit, comme le soleil à son midi. C'est le verset 6. Donc même si elle tarde, l'intervention du Seigneur est certaine, et c'est elle qui rétablira la justice et qui mettra fin à toute forme d'injustice et par là à la croissance du mal. Donc, autant que croyants, nous n'avons pas à nous préoccuper de la réussite des méchants, car nous savons que le dernier mot revient au Seigneur notre Dieu. Plus encore, David nous encourage à avoir 2 autres attitudes positives cette fois-ci dans notre marche avec le Seigneur. La première, c'est de mettre notre confiance dans le Seigneur et d'agir bien, c'est le verset 3. Et la deuxième attitude, c'est de remettre notre chemin au Seigneur et de nous confier en lui, c'est notre devise, le verset 5. Et au centre de ces 9 premiers versets, David nous encourage à faire par-dessus tout, à faire du Seigneur notre délice, car c'est lui qui donnera ce que notre cœur désire. Le verset 4. Mais lorsque nous faisons de l'Éternel ou du Seigneur notre délice, ce que notre cœur désirera n'est autre que le désir du Seigneur. Notre devise pour cette année donc s'inscrit dans cet ensemble de recommandations adressées aux croyants pour marcher avec le Seigneur dans la confiance et la patience. Et dans notre devise, donc, nous avons deux recommandations et une promesse. La première recommandation qui se trouve dans notre devise, c'est « Remets ton chemin au Seigneur ». La plupart des traductions ont le sort, « Remets ton sort au Seigneur » au lieu de « chemin » que nous avons retenu pour notre devise. Je pense, la première chose qu'il faudrait dire, le chemin, nous ne l'avons pas rajouté. Il existe déjà dans le texte original de notre devise. Donc, nous ne l'avons pas rajouté en plus. Nous avons simplement choisi de le traduire plus littéralement. Mais ensuite, je pense qu'il faut dire aussi que le mot « sort » met davantage l'accent sur la finalité. Or, le chemin, le mot « chemin », me semble-t-il, met l'accent aussi bien sur le début que sur la fin. Il met l'accent sur tout le parcours, dès le début jusqu'à la fin. Et le verbe que nous avons traduit par « remettre » veut dire littéralement « rouler ». Et l'idée exprimée ici, c'est « remet », l'idée exprimée par « remets ton chemin au Seigneur », c'est « roule en quelque sorte ton chemin sur le Seigneur ». En d'autres termes, me semble-t-il, entre autres, on pourrait le comprendre, « oriente ton chemin vers le Seigneur ». Mais comment rouler son chemin sur le Seigneur? Comment orienter son chemin vers le Seigneur? Comment diriger son chemin selon le Seigneur? Dans le contexte du psaume 37, c'est suivre la voie de juste et rejeter celle des méchants. C'est pourquoi le juste n'a pas à s'impatienter face aux exploits des méchants, car en agissant ainsi, il risque tout simplement de reproduire les mêmes attitudes qu'il dénonce lui-même ou que celles pratiquées par le méchant. Le psaume 37 donne quelques pistes concrètes de la voie de juste. D'ailleurs, tout le livre des psaumes nous parle de la voie des justes et des méchants. À chaque fois qu'il en parle, il invite le croyant à choisir la voie de juste. En fait, dès le début du livre des psaumes, c'est-à-dire, dès le psaume 1, nous avons cette description. Et probablement, ce psaume a été mis au début de ce psautier, du livre des psaumes, exprès d'ailleurs. Il nous présente ces deux voies. Et j'aimerais nous arrêter sur la voie de juste qui nous est décrite ici d'une manière remarquable, me semble-t-il. Le psaume 1, je lis les trois premiers versets que je pense vous connaissez si bien. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui la médite jour et nuit. Elle est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Dans ces versets qui commencent le livre liturgique, les psautiers est utilisé comme un livre de chants, comme nous utilisons peut-être aujourd'hui « À toi la gloire » ou « Au ressuscité » est utilisé comme un livre de chants lors de cultes dans l'Ancien Testament. Et dans ces trois premiers versets, donc, qui commencent ce livre de liturgie, il rappelle, nous avons la description là de ce que le juste ne fait pas dans un premier temps, c'est le verset 1, de ce que le juste fait et de ce que le juste est. Mais avant de revenir sur cette description de celui qui marche selon le Seigneur, j'aimerais d'abord souligner au passage que les personnes qui choisissent de suivre cette voie juste du Seigneur sont des personnes qualifiées par « heureuses ». Elles ne sont pas malheureuses parce qu'elles seraient contraintes de subir ou d'être écrasées par la loi du Seigneur ou par la parole de Dieu. Non, elles sont heureuses, elles sont qualifiées heureuses. Et justement, le vrai bonheur, le vrai épanouissement, le vrai bonheur de l'homme, donc se vit dans ce cadre que le Seigneur place. Les béatitudes, c'est-à-dire toutes les paroles là qui commencent sur les passages, qui commencent par « heureux », comme le serment sur la montagne, par exemple, sont utilisés pour recommander un style de vie qu'un observateur extérieur ne juge pas intéressant. Et du coup, elles prennent à contre-pied ce que les gens pensent pouvoir les rendre heureux. Les incroyants pensent que c'est une corvée de se plier aux lois du Seigneur. Et pourtant, la voie du bonheur passe par l'observation de la loi du Seigneur. C'est Dieu C'est Dieu voyait que le bonheur de l'homme, de l'être humain, se trouverait, dans une vie sans cadre et sans foi, il aurait été le premier à ne le recommander. Mais parce qu'il sait que le bonheur de l'être humain se trouve dans le cadre qu'il avait posé et dans une vie de relation, d'obéissance à lui, à laquelle il nous appelle. C'est ainsi, c'est la voie du bonheur que, en tous les cas, la Bible nous présente, et en particulier ces trois premiers versets du psaume 1. La voie du bonheur n'est autre que la voie de juste que le psalmiste nous décrit dans ces versets. D'abord, le psalmiste nous dit ce que le juste ne fait pas. Le juste ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et ces trois phrases qui décrivent ce que le juste ne fait pas sont construites de la même manière. Elles sont construites d'abord un verbe, un complément, suivi d'un substantif. Les verbes marcher, se tenir, s'asseoir, en fait, regroupent d'une certaine manière l'ensemble de l'activité humaine. Elles regroupent l'ensemble de l'activité de la journée, humaine. Et en plus, ces verbes décrivent aussi, me semble-t-il, une certaine progression. On part d'abord par marcher, après on commence à se tenir, et on finit par s'asseoir. Les choses commencent parfois dans le cadre de ce psaume 1, donc il s'agit des mauvaises fréquentations. Donc commence par des mauvaises fréquentations. Au début, c'est juste quelques échanges, et petit à petit, nous risquons en tous les cas de finir par être complètement influencés par ces mauvaises fréquentations. Ensuite, nous nous habituons à nous tenir au milieu de ces personnes, à prendre plaisir à ce qu'elles disent, à ce qu'elles font. Et dans le contexte de ce psaume, comme je le disais, il est question des gens qui violent la loi du Seigneur. Et enfin, nous finirons par tout simplement nous associer complètement à ces assemblées qui non seulement rejettent le Seigneur, mais elles se moquent de lui. Bien sûr, se moquer de lui, remarquez que ce sera juste pour un temps. Il arrivera un jour, le jour du Seigneur, où la fin ou le point sera, le point final sera mis par le Seigneur lui-même. Les compliments conseils, le chemin, l'assemblée évoquent ici aussi respectivement le domaine de la parole, celui du comportement et aussi l'appartenance sociale. Les conseils, c'est le domaine de la parole, le chemin, c'est celui du comportement, et enfin, l'assemblée, c'est l'appartenance, notre appartenance sociale. En d'autres termes, la loi du Seigneur devrait être la source de nos convictions. C'est elle qui doit diriger nos comportements et toutes nos associations, me semble-t-il, doivent être examinées à la lumière des normes enseignées par cette parole que le Seigneur nous a laissée. Enfin, quant aux substantifs, criminels, pécheurs, moqueurs, ils sont des termes très forts. Criminel, c'est un terme employé pour évoquer, et employé souvent dans le cadre juridique. Et il s'agit des gens qui transgressent la loi de la société. Et ce mot, d'ailleurs, reviendra au verset 4 et au verset 5 et au verset 6 du psaume 1. Et puis, les pécheurs, utilisés pour parler de ceux qui transgressent la loi du Seigneur, les moqueurs pour parler de ceux qui ne respectent pas la loi aussi du pays. Écouter les conseils des méchants, se tenir sur leur voie, là, sur la voie des moqueurs, c'est faire comme eux, c'est leur appartenir, c'est appartenir à leur groupe. Et c'est de cette manière que nous finirons toujours par nous associer au groupe de personnes que nous fréquentons. Comme le dit si bien le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes ». La suite ? Je te dirai qui tu es. Après nous avoir donc dit cela, ce que le juste ne fait pas, le psalmiste nous dit maintenant ce que le juste fait. Il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qu'il la médite jour et nuit. Et le mot, enfin la loi, revient à deux reprises dans ce verset, et il revient en opposition au pécheur, au mot pécheur. Trouver son plaisir dans la loi du Seigneur ne veut pas dire que le juste ne va pas fournir d'efforts pour méditer la parole du Seigneur. Bien au contraire, parfois, nous avons besoin de faire les efforts nécessaires pour méditer la parole du Seigneur, pour l'étudier. Et plus que nous mettons d'efforts justement à méditer la loi du Seigneur, la parole de Dieu, plus que nous sommes heureux d'y parvenir. Et donc l'effort ne s'oppose pas ici au plaisir. Plus que l'effort est fourni, plus que le plaisir, me semble-t-il, est grand. La méditation de la parole du Seigneur ne doit pas se faire uniquement sur la base des bons sentiments, mais un effort est demandé, voire même exigé, de celui qui veut imiter le juste dans son cheminement avec le Seigneur. C'est une méditation régulière qui nous est demandée ici. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'une lecture biblique de temps en temps lorsque nous sommes en forme ou nous n'avons pas la flemme, comme disent les jeunes. C'est auprès d'eux que j'ai appris ce terme. Donc c'est un appel à une lecture régulière. Le verbe méditer, employé justement dans ce psaume 1, renvoie à ce texte merveilleux de Josué, à ces paroles que Dieu a rappelées à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Moïse vient d'être repris par le Seigneur, Josué est aux commandes pour la direction du peuple. Et l'une des choses les plus importantes que le Seigneur rappelle à son serviteur dès le début de son ministère, c'est méditer la parole de Dieu. En plus de méditer la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. De la mettre en pratique. Et d'ailleurs, les méditations les plus utiles de la parole de Dieu sont celles qui se traduisent dans notre vie concrètement. C'est celles qui se vivent au quotidien. Il est important, bien entendu, d'avoir une bonne théologie, mais si cette théologie ne se traduit pas concrètement dans notre vie de chaque jour, si elle n'influence pas notre vie, elle ne sert absolument à rien. Et pour donc orienter notre chemin vers le Seigneur, nous sommes appelés à méditer cette parole du Seigneur, la laisser nous transformer, renouveler notre pensée, renouveler aussi tout ce qui doit l'être, et aussi enlever au passage s'il y a des choses que nous devons laisser pour bien être allégés et avancer avec le Seigneur, c'est les abandonner avec tout cela, avec les grâces et les forces que le Seigneur nous accordera. En vivant ainsi, nous sommes simplement comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Dans le contexte de Proche-Orient ancien, un arbre planté auprès des cours d'eau est un arbre privilégié parce qu'il manque souvent, il manque de l'eau. Donc c'est un arbre, son placement lui permet de donner ses fruits en son temps. Et de cette image, me semble-t-il, nous pouvons tirer plusieurs leçons. Mais je voudrais vous proposer deux simplement. La première, c'est la régularité. Être comme cet arbre, c'est porter les fruits en leur temps, en son temps, et c'est être régulier, c'est-à-dire être prêt pour ce qu'on attend de nous, c'est donner ses fruits, être ce pourquoi nous sommes là, en tant que témoin du Seigneur, en tant que chrétien, porter des fruits, les fruits que l'Esprit Saint produit en nous, bien sûr. Et la deuxième leçon, c'est la fiabilité. C'est que cet arbre, nous pouvons compter sur lui, nous savons à telle saison, on pourra venir et chercher des fruits, il n'y a pas de problème, on pourra même inviter ce jour-là des voisins au passage. Si nous sommes comme lui, comme cet arbre, donc nous pouvons être fiables et les personnes donc peuvent compter sur nous et peuvent avancer tout en comptant sur nous. Ils ne seront pas déçus par le fruit que nous porterons. C'est en suivant donc les recommandations données aux justes au psaume 1 que je vous propose de remettre notre chemin cette année encore au Seigneur. Et c'est en méditant sa parole, en la mettant en pratique, que nous pouvons régulièrement orienter nos pas vers lui. Et c'est orienter nos pas vers lui et avancer avec lui. Et c'est aussi en nous détournant de la voie des méchants que nous pouvons continuer notre cheminement selon le cœur de notre Seigneur. La deuxième recommandation que contient notre devise pour cette année, c'est « Confie-toi dans le Seigneur ». Ici, j'aimerais répondre à deux questions que nous pourrions nous poser. Pourquoi d'abord nous confier dans le Seigneur? Et puis, comment nous confier dans le Seigneur? Pourquoi nous confier dans le Seigneur? Pourquoi ne pas mettre notre confiance avant tout dans nos richesses, dans nos forces, surtout qu'aujourd'hui, les technologies, les richesses matérielles que nous pouvons avoir peuvent tellement nous donner l'assurance de maîtriser tellement de choses. Pourquoi ne pas mettre finalement notre confiance dans toutes ces richesses? Parce que ce qui compte sur leur force trébuche, mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur restent debout. Et David a bien compris cela, bien qu'il soit roi. Il déclare au psaume 20, aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux, nous, notre confiance, nous la mettons en toi Seigneur, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et nous tenons fermement. Le croyant est invité à se confier dans le Seigneur parce que le Seigneur est Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté au début du culte, et rien ne peut échapper à son contrôle, à sa direction. C'est le Seigneur qui gouverne le monde avec la droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Lui, le Seigneur est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi, dit le psalmiste au psaume 9, c'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Seigneur, celui qui se tourne vers toi. Voici ce que nous dit David au psaume 9. Ceux qui se tournent vers le Seigneur ne sont jamais délaissés. Le Seigneur prend soin d'eux et il est pour eux un refuge, un abri. Au temps de détresse, nous savons que notre Seigneur n'est pas dépassé par nos circonstances. Il n'est pas dépassé par nos circonstances. Nous savons aussi qu'il apporte le secours. Et il apporte le secours à ceux qui se reconnaissent faibles et qui s'attendent à lui. Nous savons que le Seigneur reste maître de toute situation, même lorsque nous traversons l'ombre de la vallée lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, nous dit le psaume 23. C'est pourquoi au cours de cette année qui est devant nous, nous pouvons aussi faire confiance à notre Seigneur. Nous pouvons nous recommander en toutes circonstances, même dans les circonstances extrêmes, à lui et le laisser nous surprendre par ses interventions remarquables, merveilleuses, qui arrivent toujours, pas souvent selon notre calendrier, mais qui arrivent selon son calendrier au bon moment. Donc recevons favorablement cette invitation du psalmiste à faire confiance au Seigneur. Il dit, habitants d'Israël, faites confiance au Seigneur, il est pour vous un secours et un bouclier. Descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur, il est pour vous un secours et un bouclier. Vous qui craignez Dieu, faites confiance au Seigneur, il est pour vous un secours et un bouclier. Le psaume 115. Le Seigneur est pour nous un secours, un bouclier, faisons-lui confiance et nous ne serons pas déçus car il est le maître de l'univers, le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est la première raison que je vous propose, c'est la première raison pour laquelle je vous propose de faire confiance dans notre Seigneur. La deuxième raison pour laquelle nous sommes invités à faire confiance au Seigneur, c'est parce qu'il nous aime. Cet amour est manifesté de bien des manières tout au long de l'histoire humaine. Dès le début, le fait que nous soyons créés en image de Dieu est l'une des plus belles preuve d'amour de la part de notre Créateur, de notre Seigneur. Et d'une manière toute spéciale, le Seigneur manifeste son amour envers son peuple. Il n'a cessé de lui apporter le secours, le soutien dont le peuple avait besoin tout au long de son parcours. Et d'ailleurs, l'une des choses que Moïse souligne dans son cantique, juste après l'Exode, donc il entend un cantique et toute l'assemblée qui chante, et le cantique nous est rapporté dans Exode 15, et l'une des choses que Moïse souligne, il dit, c'est l'amour du Seigneur. Il dit, donne, c'est Moïse qui parle au Seigneur, qui dit au Seigneur au verset 13, dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. C'est par amour, c'est dans ton amour que tu as libéré son peuple. La manifestation de l'amour de Dieu a atteint son sommet, me semble-t-il, lorsqu'il a laissé là sa lumière inaccessible pour venir nous racheter de nos ténèbres profondes. Nous venons de célébrer Noël, les fêtes de Noël, cette fête qui nous rappelle la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, la venue du Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Elle nous rappelle que par amour, le Seigneur a revêtu notre humanité avec toutes les limites que cela implique. Lui qui est infini, lui qui est éternel, qui est puissant, le voici maintenant se faire à la taille de notre humanité. Il a pris un corps humain avec toutes ses faiblesses et ses fragilités. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Or, Jésus a donné sa vie pour nous qui sommes ses amis. Et s'il l'a fait, parce qu'il nous aime, comme un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il dit dans Jean 10. Le Seigneur n'a pas seulement manifesté son amour envers nous à la croix, mais il continue encore aujourd'hui, chaque jour, à le manifester à notre égard. Et le manifeste en nous pardonnant nos péchés, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, « Pardon Seigneur, pardon ». Chaque jour, si nous pouvons nous approcher du Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous pardonne, c'est parce que le Seigneur nous accorde sa grâce. Il nous manifeste son amour en faisant de nous la demeure de son Esprit Saint et en accomplissant en nous son œuvre de sanctification par sa parole, par son Esprit. Il manifeste son amour envers nous en faisant de nous ses enfants, en nous adoptant, et il nous permet ainsi de l'appeler Abba Père. Et enfin, il manifeste son amour envers nous en nous accordant, en nous donnant la vie éternelle, pour être avec lui pour toujours, éternellement. À côté de ces grandes choses dont nous sommes bénéficiaires grâce à l'amour de Dieu pour nous, il y a aussi toutes ces interventions ponctuelles, régulières, de chaque jour, petites, toutes ces petites choses que le Seigneur accomplit à notre égard chaque jour. Et le Seigneur nous montre par là aussi combien nous comptons à ses yeux. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est qualifié, le Seigneur le qualifie, l'appelle la prunelle de ses yeux. Aujourd'hui, nous sommes son peuple et je pense que nous pouvons aussi, nous sommes aussi les prunelles, la prunelle de ses yeux et il veille sur nous. C'est donc en connaissance de cause que nous pouvons nous confier dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu qui nous manifeste un amour de plus en plus vrai, toujours vrai et toujours fort. Nous confier dans le Seigneur, mais comment? C'est la deuxième question à laquelle j'aimerais répondre ici. Je propose deux manières de nous confier dans le Seigneur. La première, c'est de persévérer dans la foi, de rester fidèle au Seigneur en toutes circonstances, dans les moments d'épreuve, comme dans les moments de paix aussi. L'apôtre Paul rend grâce au sujet des chrétiens de Thessalonique, parce qu'ils ont gardé la foi, ils ont persévéré au milieu de beaucoup de persécutions et de détresse. Ces chrétiens ont su persévérer, résister, garder la foi. Même dans les moments difficiles, donc le Seigneur peut permettre dans notre vie, et il y en a. Le Seigneur les permet, même dans ces moments-là, le Seigneur nous appelle à lui manifester notre confiance, à rester confiant en lui et à persévérer dans notre foi en lui. La deuxième piste que je veux suggérer pour nous confier dans le Seigneur, c'est de nous appuyer sur ses promesses. Dans sa prière pour la dédicace du temple, Salomon, le roi Salomon, rappelle que les promesses du Seigneur sont toutes tenues. Il dit « Loué soit le Seigneur qui a accordé la paix à son peuple Israël conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. » 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Le Seigneur n'est pas oublieux. Même s'il nous arrive parfois d'oublier, lui, il n'oublie pas. Lui n'oublie pas. Il se souvient de ses promesses, il les accomplit en bon moment, en temps et en heure. Toutes ces belles promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour nous, oui et amen, en Jésus-Christ, son Fils. Attendons-nous donc avec confiance à la réalisation de toutes ces promesses du Seigneur pour nous. Il promet de ne pas nous abandonner, de pourvoir à nos besoins selon la richesse de sa gloire, d'agir en notre faveur pour accomplir ses plans. Comme le psalmiste, nous pouvons dire aussi, « Moi, je m'attends au Seigneur, oui, je m'attends à lui de tout mon être. » C'est le psaume 130, verset 5. En nous confiant dans le Seigneur, notre cœur est en paix et nous sommes délivrés de bien des angoisses, de bien des tristesses de la vie aussi. En nous confiant dans le Seigneur, nous recevons son courage, nous recevons sa force et nous sommes en sécurité, gardés du danger. En nous confiant dans le Seigneur, nous vivons l'abondance et la prospérité, comme le dit le prophète Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers des cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur de son feuillage. Il ne voit pas, la chaleur. Oui, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter des fruits. C'est Jérémie 17. Et là, il y a aussi l'image là de l'arbre, hein, de celui qui met sa confiance dans le Seigneur, comparé à un arbre planté auprès des cours d'eau. On retrouve cette image aussi dans le psaume 1 que nous avons lu tout à l'heure. Après ces deux recommandations, remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui. Nous avons une belle promesse qui vient terminer notre devise. Le Seigneur agira. Le Seigneur agira comme il a toujours fait dans la vie de son peuple, dans notre vie. Il agira en réponse à nos prières, parce qu'il est sensible à nos requêtes. Il se tient prêt à intervenir en notre faveur, en faveur de ses enfants, comme il a fait à l'égard de nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Le Seigneur a toujours répondu par présent à ceux qui se confient en lui, qui font appel à lui. C'est le Seigneur lui-même, par la bouche de Jérémie, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et le prophète Isaïe, pour encore aller plus loin dans cet appel, nous dit que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. L'oreille du Seigneur est prête à nous entendre et son bras est prêt à intervenir encore dans nos jours. En plus de nous entendre, le Seigneur répond à nos prières, car il est bon, parce que Dieu est bon. Et c'est Jésus qui compare en disant à ses disciples, si vous, Père, mauvais vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste, lorsque vous lui demandez quelque chose, il sait nous donner des bonnes choses. Notre Père Céleste sait nous donner des bonnes choses. Et en écho à cette promesse du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'apôtre Jean qui nous rappelle cette assurance dans son épître. Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute et nous savons qu'il nous écoute. Et nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Lorsque nous demandons quelque chose, bien sûr, selon sa volonté, selon la volonté de notre Seigneur, nous pouvons être certains que nous sommes entendus du Seigneur et que nous serons exaucés. Pas forcément comme nous l'attendions, mais en tous les cas, nous serons exaucés selon ce que le Seigneur a prévu pour nous, dans ses plans qu'il a formulés à notre égard. Le Seigneur agira en notre faveur parce qu'il veut aussi nous bénir. Et en nous bénissant, c'est la terre entière qui voit que nous sommes bénis du Seigneur. Et en ce sens, nous devenons des témoignages vivants de l'œuvre de Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi le psalmiste, il dit « Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et dans toutes les nations on voit comment tu sauves. » Donc en agissant dans notre vie, le Seigneur aussi se glorifie. Nous lui rendons gloire lorsque le Seigneur nous délivre ou nous accorde ceci ou cela. Nous le disons à ceux qui nous entourent grâce au Seigneur. J'ai réussi ceci ou cela avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur agira à notre égard parce qu'il veut nous diriger, il veut nous conduire nos pas. Et c'est ce qui ressort dans le psaume 23. Le Seigneur agira à notre égard parce qu'il veut répondre à nos prières, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous conduire dans ses projets de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur notre vie. Pour conclure, j'aimerais nous rappeler que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est le Seigneur et il tient ses promesses à notre égard. Confiant donc dans les promesses du Seigneur, je nous encourage à remettre notre chemin au Seigneur, à marcher selon sa parole, à rechercher sa voie en toutes circonstances. Et que cette année nouvelle, cette année 2010, soit pour chacun d'entre nous une année où nous allons faire davantage confiance à notre Dieu, où nous allons faire davantage confiance à notre Seigneur pour que nous vivions aussi bien confiance, aussi bien pour les projets immédiats que pour les projets à venir, même jusqu'au bout de notre parcours. Que cette année 2010 soit aussi pour notre Église une année de confiance dans le Seigneur et une année de bénédiction en Jésus-Christ. Amen.